Bienvenue dans le Mac de l'été du week-end. Aujourd'hui, dimanche 5 juillet, nous rendrons hommage au saxophoniste camerounais Manu Dibango. De quoi se remettre en mémoire son passage ici même sur France Inter dans l'Afrique enchantée avec Soro Solo et Vladimir Cagnolari. L'agenda culturel ira faire un tour au musée du Louvre à la veille de sa réouverture. 18h40, à pied, à cheval, en voiture, dans les airs ou sur terre, vous aurez rendez-vous avec la chronique cinéma de Christine Masson et 18h45, live et boucle électro-mélancolique avec Hervé et son premier album Hyper. Le Mac de l'été peut commencer.
France Inter. Le Mac de l'été. Émilie Blum-Metzinger.
Pour débuter ce Mac de l'été, allons donc nous lover sous la voix, la plume et la guitare d'Anna Jean qui, quand elle est trois, s'appelle Junior. Elle invente un espace-temps mélodique, cinématographique, où la nostalgie d'un passé imaginaire embrasse les angles acerbes d'un monde contemporain où la cruauté est maîtresse en sa demeure. Ici, pas de faux-semblants, la parole est portée haut, fière et fort. On écoute la vérité nue dans le Mac de l'été.
J'ai vu de mes yeux grands ouverts les idées reçues, les paroles en l'air, les éclats de but, les éclairs, les coups de massue, les coups de tonnerre. J'ai bu à tort et à travers les discours décousus, sans revers. J'y ai cru, j'en suis pas fière.
Le trio Junior sur France Inter dans le Mac de l'été, extrait de leur deuxième album 1, 2, 3. Maintenant, évoquons ensemble une page légendaire de la musique panafricaine avec le saxophoniste Manu Dibango, une figure emblématique du jazz qui laisse derrière elle 60 ans de groove imparable. Pour lui rendre hommage, le Mac de l'été a pioché quelques bribes lumineuses de son passage chez Soro Solo et Vladimir Cagnolari. Souvenir du 2 mars 2014 sur France Inter dans l'émission L'Afrique enchantée. Et pour commencer par le début, Manu Dibango raconte ses premiers émois musicaux.
Mes premiers émois, si tu veux, oh, c'est, je dirais que ça date de l'église. Nous, on est d'origine, mes parents protestantes, Donc on allait au temple très tôt et je remarquais que bon, ben, quand ça chantait, le prêcheur là, ça m'intéresse. Tu es un gosse, il n'est pas intéressé par ce que le pasteur dit. Par contre, quand l'organiste montait avec ses petites lunettes cerclées là, j'attendais au moment où il devait pomper quoi. C'est-à-dire c'est l'harmonium. Ma maman, elle était dans les Alléluia là, tu vois. Donc moi j'ai suivi. Mon père il chantait, en même temps c'était un ancien de l'église, c'était lui le caissier de l'église, enfin j'ai trempé là-dedans grave quoi. Alors, c'était très, très dur en même temps, parce que les protestants, c'est une éducation très dure. Donc, je ne pensais même pas venir ici, c'est pour te dire. D'abord, envoyer son enfant en France, à cette époque, c'était la mode. Chez les gens qui avaient un peu réussi dans la société, ce n'était pas l'étranger pour nous, hein, on était français. Donc, bon, mon grand frère avait des correspondants dans la Sarthe, en Charente-Maritime et en Suède. Donc, en fait, j'aurais pu aller en Suède. Tu ne m'aurais pas connu. Alors, c'est une famille dans la Sarthe qui a accepté de me recevoir, une famille d'instituteurs.
Caracara, Manu Dibango, un titre qui apparaissait en 1968 sur un 45 tours, avec la Coupe des Tropiques et le Transafrique. Ici, dans les archives de l'Afrique enchantée, dans le Mac de l'été, on replonge en 2014. Le saxophoniste était venu fêter son 80e anniversaire sur France Inter. On continue l'exploration, toujours au micro de Vladimir Cagnolari, qui évoque avec lui musique et études. Pour Manu Dibango, le choix fut fait rapidement.
J'avais un copain ivoirien, d'ailleurs, Aimé Barou, un très, très grand copain, qui avait son cousin, qui avait une boîte, Fax Clark, à Bruxelles. Et comme mes parents m'avaient coupé les vivres, hein, parce que je faisais la musique, ça c'est sûr, alors que le gars dit, mais comment tous les copains, ils sont médecins, avocats, et toi, tu fais quoi? La musique, tout le monde fait la musique en Afrique, c'est quoi ça? Il n'y a pas le métier. Barou dit, mais va là-bas, tu peux continuer tes études à Bruxelles, c'est vrai que c'est francophone. Donc j'ai débarqué chez Fax Clark un jour comme ça. Quand la révolution arrive, tu ne le sais pas. C'est vrai dans ta vie. Hein. C'est un coup de dé comme ça. Je suis allé avec mon saxo. C'est tout ce que j'avais, d'ailleurs, un saxo plein d'élastique, parce que bon, pas moyen d'acheter et tout ça. Bon, Clark avait un club privé, il s'appelait Le Tabou, en haut de la ville. Le club était très bien fréquenté, alors que les Congolais n'avaient pas droit de venir en Belgique. Il y avait l'apartheid au Congo. Hein, on ne sait pas toujours, mais nous, on n'était pas belges, on était français. Donc on pouvait aller en Belgique. Oui, je suis devenu professionnel du coup. Pensant que je pouvais aller à l'université, quand tu parles, la vie de la nuit m'a bouffé. Dès le premier jour, les lumières, les machins, l'ambiance. Oh, quelle histoire, quelle histoire. Bon, après j'ai connu ma femme. Ce qui m'a arrangé, parce que pendant très longtemps, tu sais, quand tu es jeune et tout ça, quand vous avez fini la boîte, vous allez vous sortez aussi, hein. Bon, puis tu rentres tous les jours entre 10 et 11 heures. Et quand je l'ai connu, ça m'a mis sur les rails, tout ça. J'avais mon linge à heure fixe, j'ai mangé à heure fixe. Enfin, j'étais cadré, quoi.
Lingère repas à heure fixe sous les bienfaits de la rencontre avec sa femme Manu Dibango en 2014 sur France Inter. On lui rend hommage ce soir, on le retrouve en 1998 avec un extrait de son album Manu Safari à la Clairefontaine dans le Mac de l'été.
À la Clairefontaine, m'en allant promener.
J'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée.
Oh, oh. Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai. Aïe, aïe.
Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai.
Les feuilles de chêne, je me suis fait sécher.
Sur la plus haute branche, le rossignol chantait.
Oh, oh, il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai. Il y a longtemps que je l'aime, jamais je ne l'oublierai.
Manu Dibango dans le Mac de l'été, on écoutait à la Clairefontaine, extrait de son album Manu Safari, sorti en 1998. On poursuit notre hommage au saxophoniste légendaire que l'on retrouve en 2014 sur France Inter, dans l'Afrique enchantée. Il partage ses souvenirs avec Vladimir Cagnolari et parmi eux, celui des personnalités politiques africaines qu'il a croisées. On l'écoute citer sa rencontre avec Félix Houphouët-Boigny avant qu'il ne soit président de la Côte d'Ivoire.
Il n'aimait que les gagnants. Et voilà, mais il faut dire que j'ai connu Houphouët quand il était ministre ici, parce que bon, beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a eu des ministres africains ici avant. Hein? Lui, il était ministre de la Santé, tout ça. Bon. Donc je l'ai connu ici. C'est d'ailleurs pour ça que avant 75, je suis allé en Côte d'Ivoire en 60. J'ai joué à la première indépendance à l'Assemblée nationale. J'ai joué là avec un orchestre qui s'appelait les Cocoblico. 75, c'est la deuxième fois.
Tu deviens du coup patron de l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne, hein, chargé entre autres d'accompagner tous les artistes de passage, mais aussi quand il y avait des chefs d'État, etc., qui venaient. Donc chargé aussi.
Ah, je te vois venir.
D'abord,
parce que tu m'amènes sur la piste.
Déjà, je voudrais savoir, tous les gens qui ont fréquenté Houphouët ont toujours gardé un souvenir très marquant. Quel souvenir tu gardes de cet homme-là?
Il voulait les meilleurs Africains en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas que la musique. Hein. Inimaginable dans les pays africains maintenant, que tu sois ivoirien pour aller diriger un orchestre au Cameroun, on ne peut même pas penser à ça. Et il ne faut pas oublier qu'en même temps, Maïga Bonkana, qui est un grand musicien malien, était, lui, le patron du Centre des Arts en Côte d'Ivoire. C'est une époque unique. tout de même. Tu vois, quand tu vois ce qui se passe, tu te dis, tiens, bon, j'ai rêvé ou un truc comme ça. Parce que moi, Camerounais, là, Malien, là, tout les, et tout ça. Et donc, on avait vraiment un orchestre à l'image de ce qu'on voulait, c'est-à-dire on prenait les meilleurs musiciens, qu'ils soient du Ghana, du Sénégal, du Congo, les meilleurs, les gars qui lisaient bien la musique. On avait un orchestre, on est même venu à l'Olympia, on a fait un disque à l'Olympia.
Hein? Et tu me voyais venir tout à l'heure, tiens, justement, voilà, sur ce disque-là, il y a notamment Aquaba VGE qui a été enregistré pour la visite de
oui,
Giscard.
Oui, à chaque fois qu'un chef d'État venait, on faisait un morceau, quoi.
Aquaba VGE, président.
Il n'y avait pas que lui. La preuve, c'est qu'il y a eu le Bokassa qui a été empereur. Hein, il avait demandé donc à son deuxième père, le premier père génétique, le deuxième De Gaulle, le troisième Oufouette. Il a demandé à Oufouette de lui prêter son orchestre de la télévision. C'est ainsi que j'ai assisté au mariage, enfin au sacre de Bokassa. Et je peux te dire que là aussi, c'est une aventure terrible, quoi.
On est dans les années 70 et on sent que beaucoup de chefs d'État africains, c'est vrai de Sékou Touré en Guinée, c'est vrai de Mobutu au Zaïre qui courtise, s'amuse même un peu avec les artistes chez lui. Alors ces dirigeants misaient sur la culture, mais ils attendaient pour leur prestige personnel un retour.
Ça a été ma chance, j'ai jamais été la dame. Donc je pouvais sortir puisque je ne suis pas entré. Mais je dois te dire ici aussi que ici les artistes sont toujours autour des présidents. Il y a, si tu vois Tonton, il y avait tous les artistes. Il y a toujours eu une cour des artistes. C'est peut-être pas le bon mot, mais enfin disons qu'on voit les dirigeants aiment toujours avoir une caution artistique. Alors, est-ce que tu vas vendre ton âme ou pas? Et si tu la vends cher, est-ce que quand, comme Gainsbourg disait, si tout avait, s'il y a du vision dedans? Voilà, il faut calculer, quoi. Mais bon, c'est, les deux vont ensemble, peuvent cohabiter ou bien peuvent se s'osmoser, quoi. Je connais la politique, mais vraiment, c'est pas mon truc.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Passage solaire de Manu Dibango en 2014 dans l'Afrique enchantée archive France Interienne. En 1972, sur la face B d'un 45 tours, Manu Dibango offrira au monde un hymne devenu universel depuis, Soul Makossa. Un titre qui aura inspiré des générations et des générations d'artistes, tant et si bien que Manu Dibango aura même parfois été surpris de redécouvrir sa musique.
Bana Mosoma.
Get up, bust the old move. Can you feel it? Yeah, that's the old school. Saxophone with the jazz solo. That's right, it's my new Dibango. People come together, now let's lose control. It's that urban soul, my cause, I just say oh.
Ça, c'est Wayne Beckford, là, de la bande à Black Eyed Peas. Là. Bon. Là, c'est pareil, le gars, il a appris des morceaux à moi. Tu te rends compte de combien de générations il y a entre lui et moi, quoi. Alors, tu sais, tu fais des morceaux quand j'ai fait les Soul Makossa et tout ça. Pour moi, les pistes que je pouvais avoir, elles étaient dans le disque. Le gars, il arrive, il dit, attends, moi, je vois autre chose. Je vois d'autres pistes. J'avais pas vu ça, moi. vraiment, je vous fais écouter des trucs là, étonnants, quoi. D'abord, quand Claire m'a donné, Claire, c'est ma collaboratrice, m'a donné ces trucs à écouter, j'ai mis ça dans la voiture derrière, bon, j'ai pas écouté tout de suite. Puis un jour, je venais vers Vincennes, là, le bois de Vincennes, il y avait là, le trafic, là, on était, tiens, je vais écouter ce truc. Ah, je mets le truc. Ouais, dis donc, je suis scotché dans ma voiture. Moi, j'ai pas de téléphone portable, donc je pouvais pas appeler, quoi. Je suis arrivé à la maison. La première des choses, j'ai appelé Claire. J'ai dit, dis donc, c'est qui c'est ce mec-là? Qui c'est ce mec-là? Le gars m'a ouvert. Mais c'est terrible. C'est-à-dire, le plaisir de la découverte que tu risques de ne plus avoir dans ta vie. Parce que t'as tellement entendu des trucs, quoi, que tu peux devenir blasé, quoi. Le gars m'a ouvert des pistes, là. Et depuis, je suis sous son influence. L'autre jour, avant de partir au Cameroun, on a fait un morceau ici qui n'existait pas. Il est venu avec son studio ici. Voilà, c'est une aventure qui commence encore. Une vraie aventure.
Mais c'est très, très rassurant de se dire que tu as beau être doyen, tu as beau avoir tout vu, tout entendu, ouais, qu'il y a toujours des choses à découvrir et à apprendre des autres, y compris tes petits, quoi.
Ben, c'est la règle du jeu, hein, je crois. Je crois que tu es étudiant toute ta vie, hein, vieux. Sinon, le mec qui a des certitudes, il m'effraie un peu. J'ai peur des gens qui ont des certitudes, je te jure.
Manu Dibango au micro de Vladimir Cagnolari. C'était en 2014. Il était venu fêter son anniversaire ici même sur France Inter. Et on remonte le temps, cette fois-ci, jusqu'en 1962. Manu Dibango vient alors tout juste de s'installer à Kinshasa, alors appelé Léopoldville. Et ce nouveau lieu de vie lui inspira Twist à Léo. On écoute dans Le Mec de l'été. Aïe, 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 aïe.
Balance, ah, quand j'entends le twist, aïe, 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 oh, le twist fait rage, ah, le produit de l'immédiat à Kalina, de la cible à Parc en ville, vos sousés, on danse le twist, ah, ah, le produit de l'hippopo à Kalina, vite. Yeah.
Le Mac de l'été plongé dans quelques souvenirs que Manu Dibango était venu confier à Soro Solo et Vladimir Cagnolari le 2 mars 2014 dans l'Afrique enchantée. Une émission à réécouter en entier sur franceinter.fr. Et pour prolonger encore l'instant, Mathieu Conquet vous donne rendez-vous à 21h, toujours sur France Inter, pour la diffusion d'un concert exclusif que Manu Dibango donna l'été dernier au Théâtre Antique de Fourvière à Lyon. Il était alors accompagné de l'Orchestre National de Lyon et des deux chanteuses Flavia Coelho et Manu Gallo.
Émilie Blanc-Metzinger, le Mac de l'été sur France Inter.
18h34 dans le Mac de l'été, qu'entends-je ? Ne serait-ce pas la culture qui frappe à la porte ? Direction Aix-en-Provence avec la réouverture imminente du centre d'art de l'hôtel de Caumont. Ce monument entièrement restauré s'apprête à accueillir la lumineuse exposition de Joaquín Sorolla, le libre coup de pinceau naturaliste de celui qui endossa l'un des plus grands noms de la peinture espagnole du XXe siècle, sera ici décliné dans de grands formats ambitieux aux côtés de petits dessins et d'esquisses à l'huile. Sa vie entière, 1863-1923, Joaquín Sorolla n'aura qu'une et unique pensée persistante. Comment traduire la lumière, ses reflets, ses ombres? Comment capter en peinture le soleil, les nuages et leur effet miroir à la surface de l'eau? Joaquín Sorolla, Lumières espagnoles, J-5. Rendez-vous le 10 juillet à l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence.
Forêt paisible, forêt paisible, jamais un vain désir ne trouble ici nos cœurs.
Pour l'apaisement des âmes, l'évasion des cœurs et le besoin absolu d'une vie mélodieuse, voire mélodique, le 28e Festival des Forêts de Compiègne incarne l'alchimie entre musique et nature. Par petits groupes de 20 personnes, l'événement nous propose des bains de forêt musicaux. Une immersion de 3 heures entre les arbres, les herbes hautes et le chant nocturne des oiseaux. Une déambulation avec un violoniste, un violoncelliste et un flûtiste qui s'inspire du shirin-yoku japonais. Comprenez, une thérapie combiné par les pouvoirs de la nature et ceux de la musique pour combattre le stress, l'hypertension et l'anxiété. Il n'y a plus qu'à attendre que la magie opère. Rendez-vous jusqu'au 15 juillet dans les forêts de Compiègne et de l'Aigue. Réservation sur festivaldesforêts.fr. Le Mac de l'été rejoint Paris et l'un de ses monuments les plus prestigieux puisque demain, le musée du Louvre accueillera de nouveau du public. Pour en parler, je reçois la sous-directrice de la médiation dans les salles. Bonjour Marina Piavitali.
Bonjour.
Alors dès demain, les visiteurs du Louvre pourront découvrir une nouvelle exposition qui s'appelle Figures d'artistes dans la petite galerie. De quoi est-ce qu'il s'agit ?
Eh bien, c'est l'occasion de présenter une grande part des collections du musée du Louvre qui vont de l'Antiquité jusqu'à la peinture du XIXe siècle pour accompagner un cycle d'expositions que nous avons commencé en 2019 autour de la Renaissance avec Léonard de Vinci dont vous avez sans doute entendu parler et pour continuer à l'automne avec Corps et âme autour de la sculpture florentine et Altdorfer.
Une autre nouveauté que j'aimerais que vous nous expliquiez, ce sont les mini-parcours découvertes. Qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est dans le cadre de l'été culturel que mène le ministère de la Culture, et ils nous soutiennent d'ailleurs sur ce projet, de proposer des mini-découvertes. L'idée est qu'un médiateur vous guide gratuitement et sans réservation dans les salles du musée et est aussi présent pour répondre à toutes vos questions. Donc on a 8 points d'intérêt sur les grandes collections du musée, et bien sûr nos chefs-d'œuvre, un peu les incontournables du musée, et ce sera tous les jours d'ouverture à destination de tous les publics, gratuit et sans réservation.
Le Louvre s'inscrit également dans le cadre des vacances apprenantes, c'est peut-être de ça dont vous parliez à l'instant, ou est-ce que ça va prendre une forme différente ?
Alors ça prendra une forme différente, là les mini-découvertes s'inscrivent dans l'été culturel et les vacances apprenantes s'inscrivent à la fois dans cet été culturel et solidaire, puisque l'idée c'est que le musée du Louvre offre déjà le long de l'année toutes ses activités avec les médiateurs à destination des publics scolaires, du champ social et du handicap. Et là l'idée c'est de continuer ça pendant cet été un peu particulier suite à la période que nous venons de traverser autour des chefs-d'œuvre, du château fort, de l'Égypte et aussi bien sûr de figures d'artistes qu'on présentera à cette occasion jusqu'au 28 août.
Merci beaucoup Marina Piavitali. Je rappelle à nos auditeurs que le musée du Louvre ouvrira ses portes dès demain et pour tous les renseignements concernant les réservations obligatoires, rendez-vous sur www.louvre.fr. Vous écoutez le Mac de l'été, on part au cinéma.
Have you planned your vacation yet?
On ira loin tous les deux. Hein.
On ira loin avec vous, Christine Masson. Chaque jour du week-end, un voyage de cinéma dans un moyen de locomotion différent. Et locomotion, c'est le terme adéquat aujourd'hui puisque nous partons en train.
L'idée d'un voyage, d'un transport n'est pas seulement physique. Sinon, combien de scènes de films contiendrait cette chronique avec des Bond et des Tom Cruise courant sur le toit d'un train, poursuivi par un ennemi, évitant un tunnel. On connaît les images et les scènes, non? Il y a mieux, bien mieux, et bien sûr, chez Alfred Hitchcock.
My name is Thornhill. Roger Thornhill. There's never been anything else. Of course. I told you, I'm not Kaplan, whoever he is.
La mort aux trousses et cette scène d'anthologie.
Well, here we are again.
Mais pas celle du champ de maïs et de l'avion.
Non, j'ai préféré une scène qui allie transport amoureux et dangereux, celle du wagon-restaurant entre Cary Grant et Eva Marie Saint. Un moment de séduction au milieu de la course folle d'un type confondu avec un autre, enlevé, presque assassiné et qui mène l'enquête. Il vient de rencontrer Eve Kendall, blonde, froide et magnifique, et la retrouve au wagon-restaurant.
Dès que je rencontre une femme séduisante, je dois faire semblant de ne pas vouloir faire l'amour avec elle.
Qu'est-ce qui vous fait croire que vous devez le cacher?
Bon, elle pourrait trouver l'idée répréhensible.
Ou pas.
On dirait que j'ai vraiment de la chance d'avoir été installé à cette table.
La chance n'a rien à voir avec ça.
Est-ce le destin?
J'ai donné un pourboire de $5 au steward pour vous placer là si vous veniez.
C'est une proposition?
Je ne discute jamais l'estomac vide.
Mais vous avez déjà déjeuné?
Mais pas vous. Le train, élément capital dans La mort aux trousses, c'est ce fameux plan de fin mythique, l'ellipse entre le Mont Rushmore et le compartiment couchette, sans compter cette dernière image du train s'engouffrant dans le tunnel, symbole de l'acte sexuel.
Oh, Matt, this is silly.
I know, but I'm sentimental.
Bonjour, monsieur Whitman.
Oui, oui, c'est vous.
Est-ce que je peux voir vos pieds?
Sur le transport amoureux, une autre scène extraite de ce merveilleux film de Wes Anderson à bord du Darjeeling Limited.
Trois frères rejoignent en train leur mère, incarnée par Angelica Houston, dans un ashram en Inde.
Moi, je trouve que ce voyage est une occasion d'effectuer un changement dans nos vies et je crois qu'on en a besoin.
L'un d'entre eux va tomber amoureux de la belle hôtesse indienne. En quittant le train et la femme, voilà ce qu'il lui dira depuis le quai.
Merci de m'avoir utilisé.
Si les hommes étaient capables de telles répliques dans la vraie vie, ce serait vraiment bien.
You're crazy. What's your name?
Jack. It's yours. Rita. You're beautiful.
On ira loin, la chronique cinéma et moyens de transport de Christine Masson à retrouver, réécouter, podcaster sur notre appli ou sur franceinter.fr.
Le Mac de l'été, musique.
Dans le Mac de l'été, je reçois celui qui nous fait danser et pleurer. Jamais de juste milieu, jamais de fadeur. Il prône l'intensité avec son premier album, Hyper, sorti le 19 juin chez Initial. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Bonjour Amélie.
On commence par du live avec le deuxième titre de votre album Hyper, immédiatement repéré par les oreilles des programmateurs de France Inter. On vous écoute dans Trésor, dans le Mac de l'été.
Le monde se lève. Avec ou sans, moi j'ai besoin d'un arrêt au stand. je m'envoie en l'air. Mais tu sais, je plane mal depuis que t'en fais des tonnes. Hey, hey. J'écoute ces morceaux à la radio. Je les connais trop, ceux qui nous recollent. Tout ce qui te colle à la peau. Me chasse pas. Moi, je vais revoir la mer à Ostend. J'évite ces morceaux à la radio. Je les connais trop, ceux qui nous recollent. Tous ceux qui te collent, je referai la peau. Me chasse pas, trésor, trésor. Tu sais combien t'as compté. Mes désirs font des ordres, trésor. Mais toi t'es belle comme l'été. Me chasse pas, trésor.
Hervé en live dans le Mac de l'été avec son titre Trésor, extrait de son premier album Hyper. Alors Hervé court pour rejoindre le micro à table. Bonsoir Hervé.
Bonsoir.
Le public, vous avez découvert en duo avec Denise Brown et le groupe Postel. À cette époque-là, il avait déjà germé dans votre cerveau cette idée de projet solo.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait en parallèle de Postel. Je suis parti en Bretagne en fait écrire quelques titres. Et c'était en parallèle. Et du coup, j'ai fait l'EP de Postel, l'album. Et puis, parce que j'arrive pas à faire deux trucs en même temps.
Mais vous avez quand même, malgré tout, tout mené de front.
Un petit peu, oui. Un petit peu. Et du coup, j'étais producteur sur Postel. Et je suis aussi producteur sur mon album. Et du coup, on n'a pas chômé, puis on est là.
Vous étiez plutôt derrière une console ou dans un studio, caché sous une capuche, en tout cas une place beaucoup plus confidentielle que celle que vous investissez aujourd'hui avec Hervé. Hervé, c'est votre prénom, mais c'est le nom de votre projet. Est-ce que vous avez eu une espèce de temps d'adaptation pour ce saut sans filet?
Eh bien, en fait, je me suis lancé, et puis ça aurait pu ne pas me plaire, en fait. J'aurais pu me retrouver de avoir ta tête sur la pochette ou, tu sais, dans les clips et tout, jouer et tourner tout seul sur scène, surtout parce que j'ai fait un an et demi tout seul sur scène, là, avec mon ingé son, Justine. Et du coup, ça aurait pu ne pas me plaire. Et au final, ça me plaît bien.
Vous êtes pris au jeu.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, je continue, quoi.
Hervé, le titre par lequel on entre dans l'album, celui qui précède celui qu'on a écouté à l'instant, s'appelle « Le premier jour du reste de ma nuit ». Vous y rendez hommage à la nuit, dans ce qu'elle peut offrir de calme, de solitude, d'abandon et aussi de réflexion. C'est un espèce de création, la nuit.
Ouais, moi j'ai tendance, je suis un couche-tard. j'ai tendance à traîner pas mal.
C'est pas genre des créations à 7h du matin. C'est pas comme ça que ça marche chez vous.
7h, 7h30. Mais avant, je vais courir.
Mais c'est la fin de la nuit.
Ouais. Non, en fait, c'est surtout que je crois que c'est des moments où le temps s'arrête un peu. Et où, la plupart des gens ne travaillent pas. Et donc, dorment, quoi. Et du coup, c'est tout calme. Et du coup, c'est un espace que j'investis, quoi, assez souvent. Ouais.
Dans tout ce que j'ai pu lire de vous, il y a la notion d'ennui qui revient souvent, mais avec des vertus créatrices. Je trouve ça assez surprenant parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'ennui, c'est presque l'ennemi du siècle. On veut pas l'accepter, c'est plutôt une ère de trop-plein où il faut comme ça occuper sans cesse tout l'espace. Comment est-ce que vous abordez l'ennui et jusqu'à quel point vous le laissez vous grignoter avant de le contrer par l'acte créatif?
Ouais, bah... Je sais pas très bien. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne et du coup, c'était un peu entre la 13 et les champs, quoi. Donc, il y avait ce truc de... où on s'ennuyait forcément. Et c'est l'ennui qui m'a poussé à m'enfermer dans ma maison et puis à... dans ma chambre et à faire du son. Et pareil en Bretagne, quand je traîne là-bas, bah, y a plein de trucs à faire, hein. Mais moi, j'arrive toujours à m'ennuyer et à susciter du besoin, en fait. Moi, j'ai du mal à consommer autant d'images, de sons, de vidéos, voilà, qui est le rythme un peu, ce que vous décrivez aujourd'hui, quoi, qui est le rythme aujourd'hui de surconsommation de tout. J'ai un peu de mal avec ça, et j'aime beaucoup l'ennui. Voilà, c'est des moments que j'apprécie énormément. Voilà.
Et vous surcréez, c'est-à-dire vous produisez, vous le disiez, vous composez, vous écrivez, vous enregistrez, vous faites absolument tout, Hervé. Est-ce que... Il y a un sens dans lequel ça chemine systématiquement pour vous? Est-ce que ce sont les mots, la musique, les images, les sons qui naissent en premier? Est-ce qu'il y a une logique respectée?
En fait, j'ai des moments de création dans l'année. J'en ai pas beaucoup, en fait. J'écris pas tous les matins et tous les soirs, de façon machinale, comme ça. J'ai des retraites un peu monacales, comme ça, dans lesquelles...
Toujours en Bretagne?
Toujours, souvent en Bretagne, ouais. Et en fait, j'écris toute l'année plein de notes sur mon téléphone, plein de jeux de mots, etc. Et j'ai plein d'idées de production, de trucs que j'écoute. Et en fait, je me lance et puis ça vient comme ça, quoi.
Pendant le confinement, si certains ont tourné en rond, d'autres se sont inventés professeurs des écoles, vous êtes plutôt révélé chef cuistot. Alors qui, de l'œuf, de la poule ou de la crêpe? C'est la question, en tout cas vous avez fait un clip.
8 heures comme un crève-cœur, j'attendrai son nom. 7 heures désert eagle, sensible mais sensible. 6 heures en tente mineure sur mes ennuis. 5 heures par quel mystère, je crois qu'elle m'aime.
Si bien du mal, c'est un titre qui apparaît sur votre album et vous avez fait un clip totalement confiné où vous donnez une recette de crêpes. On sait pas trop si on a envie de les manger parce qu'elles sont un peu surdynamisées quand même. Hein. Vous courez dans votre cuisine.
Pour être très honnête, elles étaient pas tellement mangeables, mais mon père a trouvé le moyen de les manger avec une tonne de confiture. Comme
et toujours, vous mettez quand même à la fin de la recette, surtout ne pas oublier une bonne dose de beurre salé pour la poêle et pour sauter les crêpes.
C'est ma recette de mémé de colpo, quoi. C'est la recette de ma grand-mère.
Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui est très cohérent dans ce clip confiné. C'est que vous aviez créé, je crois, l'idée de ce morceau était née dans la cuisine et vous revenez dans la cuisine pour le clip.
Exactement. Bah, en fait, je commençais à avoir un peu l'instrumental et un peu des yaourts comme ça sur Si bien du mal. J'écoutais fort dans la maison et j'avais faim. C'était la nuit.
On y revient.
Et il devait être, je sais pas, 1 heure ou 2 heures. Je devais me faire des pâtes, un truc comme ça. Et je me suis dit, ah tiens, si un jour je fais un clip, et je ferai un truc d'une scène du quotidien comme ça, un peu banale. J'avais en tête, je sais pas, Madame Doubtfire, Risky Business, des scènes comme ça. Ce sera un mec qui se lève, qui boit son café, comme ça. Voilà.
Vous n'avez pas osé le déguisement de Mrs. Doubtfire, quand
non,
même.
Non, je me suis confiné au cantonné, pardon. Tu vois.
Cantonné au confinement. Ouais, en même temps, ça fait un bon exercice d'articulation. Pour le mec de l'été, Hervé, je vous ai demandé une reprise. Et alors, pour vous, elle a été toute trouvée, puisqu'elle fait partie de votre album. Un titre inachevé. Je vous propose de vous écouter. Et on en parle peut-être juste après. C'est un titre inachevé d'Alain Bachung. Et le titre, c'est La peur des mots. Hervé, bien évidemment, c'est quand vous êtes prêt. Dans le mec de l'été. Yes.
La peur des mots voudra nous faire croire que dans les villes, on se noie dans des murmures. Du reste, on en a cure. La peur des mots. du moins, je te couvrirai de baisers.
Dans le mag de l'été, la peur des mots, Alain Bachung, sous l'inspiration d'Hervé, un titre à retrouver, piste 9 de son album Hyper. Hervé, vous dites souvent qu'Alain Bachung a changé votre vie. Qu'est-ce qu'il a allumé comme lumière? Qu'est-ce qu'il a ouvert comme possibilité?
Bah, c'est le boss, quoi. C'est le magicien. C'est le grand sorcier de la chanson pour moi. C'est le meilleur, quoi. C'est un producteur incroyable. C'est un compositeur de génie, quoi. Et c'est un mec qui a eu plein de vies et plein d'odyssées qui m'ont tellement inspiré, quoi.
Et en faisant cette reprise, par exemple, qu'est-ce que vous vouliez absolument préserver de lui et qu'est-ce que vous vouliez prolonger, agrandir, transformer?
En fait, je me suis autorisé la reprise parce qu'elle avait été inachevée.
Inachevée.
Quoi. Du coup, il y avait 6 démos différentes et moi, j'ai choisi celle de Memphis. C'est le studio qu'il avait fait au studio Sun, le studio d'Elvis, dont il était fan. Et du coup, de cette session, il y avait eu Osée Joséphine, qui était revenue, et il y avait La peur des mots, mais qu'il n'avait jamais sorti. Quand j'ai lu le texte de Jean Faux, je me suis dit, oh, c'est génial, il faut que j'essaye, et on verra bien. Et puis finalement, je l'ai faite, et j'ai dit, bon, je la garde.
Racontez-moi ce petit « wouh » que vous avez bouclé.
Ah, ça, c'est moi. C'est,
je oui, je vous genre, voyais.
C'est juste un
« wouh ». Voilà, ça y est, on l'a en entier. Hervé, votre album s'appelle Hyper, il est sorti chez Initial le 19 juin. Vous serez en concert le 21 septembre à la Maroquinerie de Paris et oh joie, c'est totalement complet. Mais les auditeurs auront de quoi se rattraper en venant vous applaudir le 19 janvier 2021 à La Cigale, aussi à Paris. Merci beaucoup Hervé.
Merci à vous, merci beaucoup.
Le Mac de l'été, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission préparée par Stéphanie Valois et Mathilde Verfaillet. Réalisation Anna Buis. Programmation Muriel Pérez et Jean-Baptiste Audibert. À la technique, Julien Dumont et Fabrice Desmaz. Si l'envie vous vient d'écouter 9 fois de suite cette émission, c'est sur franceinter.fr. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour un autre Mac de l'été du week-end.